Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Peut-être avez-vous vu, déjà aperçu, cette carte du réseau de métro parisien vue par l'APF France Handicap. Elle a été publiée en 2018. Elle n'a pas beaucoup changé. Se déplacer lorsqu'on circule en fauteuil roulant peut se révéler une corvée, voire une tâche impossible. Avec l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques, les pouvoirs publics affirment pourtant avoir accéléré la mise en accessibilité des transports en commun et prévu des dispositifs d'accessibilité au site des épreuves. Mais après les Jeux, le quotidien des personnes en situation de handicap aura-t-il vraiment changé? L'accès à la culture, aux sorties, sera-t-il plus simple? Les discriminations au travail ou sur l'accession au logement ont-elles disparu? Les investissements sont-ils globalement suffisants pour inclure tous les Franciliens? Ces thématiques, nous les abordons ce soir avec Pierre Denisio, conseiller régional délégué spécial à la promesse républicaine au handicap et à l'accessibilité, et Riyad Salem, basketteur fauteuil et fondateur de le CAPSA. Nous entendrons aussi le témoignage d'un accompagnant pour élèves en situation de handicap au sujet de l'accessibilité des lycées. Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, un accélérateur pour l'accessibilité en Ile-de-France. C'est la nouvelle thématique d'Île-de-France Politique. C'est parti. Bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour tenter de répondre un petit peu à cette problématique de l'accessibilité en Ile-de-France. Je disais basket-fauteuil pour vous, Riyad Salem, c'est rugby-fauteuil désormais.
Continue le basket en club, mais c'est rugby.
Rugby-fauteuil désormais. Premièrement, le quotidien quand on est porteur de handicap, je parle des transports, je parle du travail, c'est comment?
C'est compliqué, mais c'est possible.
C'est compliqué, mais c'est possible,
oui,
c'est-à-dire?
Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il y a une très grosse politique avec la loi de 2005 qui a permis aux entreprises de mettre en place tout un tas de dispositifs pour embaucher, pour aménager des postes. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 80% des entreprises qui ont des personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Donc on voit qu'il y a quand même une très très grosse évolution. Mais on s'aperçoit aussi que sur le côté du handicap, il y a des avancées et des choses qui ont un petit peu reculé avec les logements ou les choses comme ça, mais voilà.
Il y a eu une prise de conscience au sujet de l'accessibilité, Pierre Denisio?
Oui, je pense que l'ensemble des collectivités maintenant voient clairement les difficultés que peuvent rencontrer les Franciliens en situation de handicap, que ce soit au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau de la région. On sait que la tâche est immense, on a besoin du soutien de l'État aussi pour mener des politiques qui soient efficaces pour changer le quotidien des Franciliens en situation de handicap.
Est-ce que vous n'avez pas toujours le soutien de l'État?
Parfois, on se heurte à la complexité de règlements, de normes qui font qu'il est difficile de mettre en accessibilité certains lieux. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour se résigner. Et puisque le sujet ce soir, c'est de savoir si les Jeux Olympiques et Paralympiques vont transformer le quotidien des Franciliens, j'espère vous montrer qu'il y a des choses qui vont changer.
Sur quel chantier il reste encore un immense travail à faire?
Le regard a beaucoup changé. Il y a un gros chantier sur les comportements. Moi, je m'implique énormément dans les Jeux parce que j'ai vraiment espoir qu'à la suite de ces Jeux, ça va ouvrir les esprits et que l'accessibilité des mentalités va se mettre en place naturellement. J'ai fait 6 Jeux paralympiques, il y a un avant, un après. Et donc ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et j'espère vraiment que les comportements, aujourd'hui, les gens construisent leur maison ou aménagent leur commerce, pas forcément avec l'accessibilité dans la notion de se dire c'est une belle chose, c'est une bonne chose, c'est un bon défi. Ils le prennent comme quelque chose qui est une contrainte, quelque chose de difficile. Et ça, c'est pas bon. Parce que si on a cette attitude vis-à-vis du handicap et de la différence, eh ben, on ne met pas de la joie dans ce qu'on fait. Et quand il n'y a pas de joie, ce n'est pas très agréable. Voilà, parce qu'on va se dire, ah, j'ai fait ça, j'ai perdu tant de mètres carrés pour faire un toilette accessible. Ça m'a enlevé quelques tables dans mon restaurant. Ouais, mais au final, c'est quand même le plaisir avec tout le monde. C'est quand même plus sympa qu'avec certains.
Je voudrais qu'on aborde quand même les difficultés de déplacement, parce que vous serez d'accord avec moi pour dire que pour le moment, on parlait tout à l'heure de ce plan de métro édité par l'APF France Handicap il y a quelques années, qui montrait justement les stations accessibles, et en l'occurrence il n'y avait que la ligne 14. Alors il n'y avait pas encore le prolongement jusqu'à Saint-Ouen, mais on voyait qu'il y avait les stations de la ligne 14. Le métro parisien, c'est toujours assez compliqué, il y a des blocages.
Oui, bien sûr. Donc là, actuellement, on a 13 stations accessibles. Avec les prolongements sur les différentes lignes, on va en avoir 16 de plus. Donc on va passer à 29 stations. C'est heureux, c'est la ligne 14. C'est vraiment la colonne vertébrale de transport des Jeux, qui va aller d'Orly au Stade de France, au village olympique, et en passant par Paris. Voilà, on a cette ligne qui est accessible. Maintenant, les blocages, ils sont principalement réglementaires sur les questions de normes. Je pense qu'il y a besoin d'une volonté politique au niveau gouvernemental pour faire évoluer les choses.
Des problèmes architecturaux aussi au niveau du métro parisien.
Également, de toute façon, on sait qu'il y a des contraintes fortes, avec des risques d'effondrement si on réalise certains travaux pour faire des sas de mise en sécurité dans le métro. Néanmoins, il y a des stations qui peuvent être mises en accessibilité. Nous avons financé une étude au niveau d'Île-de-France Mobilité sur la ligne 6. Mmh. Et nous tendons la main à l'État et à la mairie de Paris en leur demandant de nous aider financièrement. Voilà, chacun a un tiers d'effort pour pouvoir le mettre en accessibilité. Et puis on demande aux ministères concernés de faire évoluer un peu leur doctrine sur les normes.
Mmh. Sur les lignes accessibles, alors quand on parle du réseau RATP, pour le moment c'est assez peu de stations de métro. Quand on parle plutôt du réseau SNCF avec les Transiliens, avec les RER, alors assez peu de lignes de RER sont intégralement accessibles, hein. Notamment le C, c'est compliqué. Souvent, il y a des petits escaliers pour monter dans le RER. En revanche, les Transiliens, souvent, c'est accessible parce qu'il y a des agents qui peuvent aider en station. Est-ce que vous considérez, Riyad Salem, que lorsqu'on peut être accompagné dans une station, elle est accessible? Ou alors, pour vous, l'accessibilité, vraiment, c'est le moment où vous allez pouvoir y aller seul, sans l'aide d'un tiers?
En fait, il faut les deux. Parce que le souci, on le voit, par exemple, on a des stations qui sont accessibles, mais il faut la clé pour aller prendre l'ascenseur. Et souvent, la personne qui a la clé, on ne la trouve pas. Donc, on a le temps de voir passer quelques RER, quelques transports avant de trouver la clé. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un moyen, surtout aujourd'hui avec les applications. Je pense qu'il y a des moyens, il y a des solutions qui sont évidemment le bâti, mais aussi l'humain. Quand je vois d'autres pays où l'accessibilité, elle est aussi beaucoup basée sur l'humain. Mais nous, on n'a pas cette culture en France. Vous voyez, on aime l'autonomie, on aime notre liberté, on aime pouvoir faire les choses simplement. Et c'est sûr que quand vous êtes une personne handicapée, vous battez pour aller chercher votre autonomie. Donc si demain, vous avez encore besoin de quelqu'un pour accéder à tel ou tel endroit, c'est un peu embêtant. Mais je pense qu'il faut les deux.
Il faut les deux. Vous trouvez qu'il y a des réels efforts qui ont été faits à l'approche des Jeux, que les personnels sont suffisamment formés, que des stations ont été mises en accessibilité?
Alors, moi, je vais pas vous répondre, puisque je maîtrise pas complètement tout le sujet. En tout cas, ce que je vois, moi, c'est la dynamique. Toutes les formations, toutes les demandes des grands opérateurs d'avoir des personnes handicapées qui viennent les conseiller, je sais pas qu'est-ce que ça va donner sur le terrain. En tout cas, cette volonté, elle est là. Je le vois avec les aéroports de Paris. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le tram. C'est vraiment extraordinaire. C'est,
100% du tram accessible.
C'est un outil incroyable.
100% des bus parisiens aussi.
J'ai vu aussi, la dernière fois, j'étais avec les taxis G7. Je crois qu'il y a je ne sais plus combien de centaines de taxis qui vont être adaptés pour les fauteuils. Donc oui, il y a toute cette dynamique, il y a des moyens. Et j'ai vu aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est des appareillages autonomes qui vous permettent de monter les escaliers. Et je me dis que ça aussi, c'est l'avenir. Vous voyez, si demain, on investit dans ce type d'appareil, eh ben, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'avoir à faire s'effondrer des stations de métro, parce que ça sera de la technologie. Je crois beaucoup à cette technologie de demain.
Est-ce que il a fallu attendre les Jeux, en fait, pour mettre toute cette accessibilité finalement à un horizon plus rapproché? On a l'impression qu'il a fallu cette dynamique des Jeux parce que sinon, avant, ça n'avançait pas.
Non, on avait, même avant la phase candidature, la nécessité d'avoir un schéma directeur d'accessibilité des transports en commun. Là où les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été un accélérateur d'accessibilité, c'est que ça nous a donné une cible. Et c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont concernées par l'accessibilité ont dû tenir un calendrier pour être au rendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, je pense que si on n'avait pas eu cet événement planétaire et le monde entier à accueillir à Paris-Île-de-France, on se serait laissé embarquer dans un calendrier qui traîne avec la crise sanitaire que l'on connaît, qui nous aurait fait déraper. Mmh. La réalité aujourd'hui, c'est que on a 219 lignes accessibles, on en aura 21 de plus pour les Jeux Olympiques, donc on sera à 240 lignes accessibles.
240 lignes de surface.
Exactement, de stations en surface du réseau ferré, mmh, sur une cible de 269. C'est-à-dire qu'on aura réalisé 91% de nos objectifs, mais ça veut dire aussi que pour les Jeux, 95% du flux voyageurs va passer par des gares accessibles. Et ça, c'est pour les Jeux et c'est après les Jeux. Idem sur les lignes de bus. Aujourd'hui, il y a 540 lignes de bus accessibles, toutes accessibles à Paris, avec des travaux qui ont été faits sur les arrêts de bus. Pareil en petite couronne. Encore un travail à réaliser sur les bus plus lointains, mais ça a été un accélérateur.
Il y aura des lignes qui seront réalisées après, évidemment, on imagine, des stations de surface en tout cas. Est-ce que la crainte, c'est pas aussi un peu que ça ralentisse finalement après les Jeux Olympiques et Paralympiques? Le monde aura finalement les yeux qui ne seront plus tournés vers nous, donc est-ce que vous n'avez pas peur que
ça ralentisse?
Moi,
je pense que ça sera l'inverse. Ah ouais. Parce que ça aura mis le curseur ailleurs. Mmh. Vraiment, là, quand, je vous dis, quand je vais dans ces entreprises, ils ne parlent pas que de l'accessibilité fauteuil. Ils parlent de l'accessibilité universelle. Mmh. Ils réfléchissent aussi à des personnes qui sont autistes, qui ont des handicaps mentaux, des non-voyants, des malentendants. Donc voilà, déjà d'avoir cette réflexion, c'est un héritage qu'ils ont, mais qu'ils vont, je pense, faire quelque chose avec. Jusqu'à maintenant, ils ne comprenaient pas le sens. Moi, je me souviens, il y avait des combats dans les années 80, où on se bataillait avec la SNCF ou avec d'autres en disant, mais il nous faut l'accessibilité. Mmh. Et qu'est-ce qu'on nous répondait à l'époque? Pourquoi vous voulez avoir de l'accessibilité? Les personnes en fauteuil ne prennent pas les transports en commun. Vous voyez l'absurdité du truc. Mmh. Et après, ils se sont aperçus qu'en rendant les choses accessibles, il y avait moins d'accidents. Même pour les personnes qui ne sont pas en fauteuil. Les personnes âgées, des fois, vous avez vu, je ne sais pas, à l'époque, les marches, c'était franchement, fallait être sport hein, pour pouvoir monter et descendre. Et même dans leur personnel. Donc, au final, comme il y a toujours cette petite cloche de la banque derrière de combien ça va coûter, ben, quand vous regardez combien ça va coûter aussi, dans le sens inverse, combien ça va rapporter, ben là, ils se disent peut-être que ce n'est pas bête d'y aller sur l'accessibilité.
Bon, on va évoquer ensemble, parce qu'on vient de l'effleurer d'un mot, hein, les Jeux Olympiques et Paralympiques, on va l'évoquer un petit peu plus tard dans cette émission. Je voudrais qu'on continue un petit peu sur les constats, sur les solutions aussi. Les transports, c'est un point épineux, bien entendu. Mais il y a une autre question que je voulais aborder avec vous, Pierre Denisio, puisque vous êtes conseiller régional. C'est la question des lycées. Selon les derniers chiffres qu'il est possible de trouver sur Internet, et ils sont assez vieux déjà, il y avait 24 lycées qui étaient accessibles aux élèves porteurs de handicap en 2017. Est-ce que désormais, il y en a plus?
Oui, déjà sur toutes les nouvelles constructions, évidemment, les normes sont respectées. Et puis, il y a 200 lycées qui nous ont été laissés particulièrement vétus, pour lesquels on a dû effectuer des travaux très importants. Et tous les travaux qui sont réalisés font en sorte que l'accessibilité soit garantie pour tous.
Mmh. Aujourd'hui, combien y a-t-il de lycées accessibles en Île-de-France?
Aujourd'hui, on a 150 lycées qui sont accessibles à différents types de handicap. Maintenant, on se heurte à un calendrier qui est long. On a un patrimoine très important, avec près de 500 lycées à mettre en accessibilité. Donc un agenda d'accessibilité programmé où il faut trouver la ressource nécessaire. Donc ce que l'on a mis en place, c'est une anticipation de la rentrée des collégiens en situation de handicap qui vont arriver au lycée pour que l'on puisse, dès que l'on en a connaissance, dès qu'ils nous sont signalés, faire des travaux immédiatement dans leur lycée de proximité pour qu'ils ne soient pas obligés de s'exiler dans un autre lycée de ce secteur. Donc on a ce schéma qui court sur 8 ans, le schéma directeur. Et puis on a cette task force qui travaille, qui fait du sur-mesure pour que tous les élèves soient accueillis dans le lycée de leur secteur.
On est en direct et en visio avec Angelo Barthélémy, accompagnant d'élèves en situation de handicap au lycée Jules Ferry dans le 9e à Paris. Bonsoir. De quel matériel on a besoin lorsqu'on est un élève en situation de handicap et vous les accompagnez du coup, vous, toute l'année ?
Bonsoir. Eh ben, comme matériel, on a besoin premièrement de choses qui permettent d'entrer dans l'établissement. Ça peut être un plan incliné s'il n'y a pas beaucoup de marche. Ça peut être un monte-charge. Et une fois au sein de l'établissement, qui est généralement sur plusieurs niveaux, on a besoin d'ascenseurs qui fonctionnent et, si possible, qui soient aux normes. Il était évoqué un peu plus tôt que la ligne 14 est accessible et c'est formidable. J'ai accompagné une sortie scolaire avec un élève jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand l'année dernière. L'allée s'est bien passée et deux ascenseurs étaient en panne au retour. On a dû se déplacer de deux stations supplémentaires. Dans les lycées, ça peut être la même configuration. Donc si un ascenseur tombe en panne, si un monte-charge tombe en panne, eh bien on peut être amené à circuler parfois par les sous-sols du lycée pour trouver une entrée en pente qui permet de sortir. C'est pas la chose la plus motivante pour les élèves, c'est même parfois assez humiliant. Dans le lycée où j'exerce, la cité scolaire Jules Ferry, la région nous a indiqué il y a plus de 5 ans, qu'elle nous doterait de 1 million et 100 000 euros pour les travaux de mise aux normes du matériel d'accessibilité. Cet argent, nous ne l'avons pas vu venir, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023. Nous l'attendions ne serait-ce que pour pouvoir établir des devis de mise aux normes de ces appareils. Et cette année, enfin, nous avons eu un courrier nous disant que la commission permanente, présidée par Mme Pécresse, avait enfin voté, non pas 1,1 million, mais 750 000 euros de mise en adaptation d'accessibilité. Mmh. Alors, je comprends qu'il y ait beaucoup de lycées qui aient besoin d'être rendus accessibles en Île-de-France. Je peux penser par exemple au lycée Sandrard à Sevran, qui a défrayé la chronique récemment avec la mobilisation de ses élèves et de ses enseignants, qui tout le 93 d'ailleurs a besoin de progrès sur son bâti. Mais vraiment, pour des élèves déjà accueillis à mobilité réduite, on rencontre des problèmes dans les établissements qui les accueillent, voire parfois des situations ubuesques, puisqu'on expédie des élèves qui peuvent être accueillis dans des lycées, passer leurs examens dans des lycées non accessibles.
Je vais simplement vous couper pour donner réponse, Angelo Barthélémy, à Pierre Denisio. Quand vous entendez justement ce témoignage d'AESH, finalement les crédits qui se font attendre, mais aussi des lycées qui manquent aussi de ce genre d'infrastructures pour accueillir les élèves en situation de handicap, quelle est votre réaction ?
La vérité, c'est que j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, hérité d'une situation dramatique de la majorité régionale précédente avec un sous-investissement chronique, et c'est la même chose sur les questions de transport, mais on le retrouve à l'échelle des lycées, sous-investissement sur les questions d'accessibilité, sur la mise aux normes de ces lycées, aux différents types de handicap.
Et donc, mais sur cette enveloppe promise qui a mis tant de temps à arriver.
Ouais, vous me sollicitez sur ce dossier, je ne savais pas que vous alliez m'interroger sur ce lycée en particulier, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu ce décalage de calendrier, est-ce que d'autres travaux étaient prévus en parallèle, et dans ce cadre-là, il est utile d'attendre que d'autres travaux soient faits plus structurels avant d'aller sur la mise aux normes d'un ascenseur. Enfin, voilà, ça, je ne connais pas ce dossier en particulier. Ce qui est certain, c'est que ce qui est investi dans les lycées franciliens est sans commune mesure avec ce qui était fait auparavant. On court après le temps pour refaire des toilettes, parce qu'on nous a laissé des toilettes à la turque. On nous a laissé, dans ma bonne ville de Boulogne, beaucoup d'élèves qui étaient dans des préfabriqués. Bref, beaucoup de conditions indignes. C'est le cas aussi du lycée à Sevran qui a été évoqué. Et donc, la région Île-de-France, la présidente Valérie Pécresse, le vice-président qui est en charge des lycées, est au four et au moulin pour courir après ce temps perdu et l'état désastreux et indigne dans lequel on nous a laissé les lycées.
Au-delà au-delà des équipements, Angelo Barthélémy, il faut aussi du personnel. Alors là, ce n'est pas la compétence de la région. Au niveau de l'accompagnement dans certains établissements scolaires, on pointe carrément un manque de personnel.
Oui, bien sûr. Nous sommes passés depuis quelques années sur un mode d'organisation de PIAL qui mutualise les moyens. Ça permet de cacher numériquement la misère qu'est l'accompagnement des élèves en situation de handicap, parce qu'on est amené à travailler 8 heures avec l'un, 8 heures avec l'autre, ou plus exactement, on nous demande de regrouper un accompagnement de 8 heures sur 2 ou 3 élèves à la fois, jusqu'à 4. En 8 heures, vous ne faites pas grand-chose d'utile sur toute une semaine de travail. Parfois, ça peut être juste les accueillir, les installer dans les salles. Avoir des moyens, avoir des conditions de travail dignes de ce nom, avec des chaises qui ne font pas mal au dos, par exemple, des tables qui soient adaptées à la taille des élèves en situation de handicap et de leurs AESH, des classes à effectifs un peu plus réduits, ça serait appréciable aussi, parce que mettre un AESH dans une classe où il y a déjà 36 ou 37 élèves, c'est un peu difficile. Ça participerait de revaloriser le métier, de revaloriser aussi aux yeux des élèves qui sont dans la même classe que les enfants en situation de handicap, la valeur qu'on accorde à leurs camarades. Et bien enfin, sûr. Revaloriser bien sûr la rémunération des AESH, puisque la grille indiciaire est à peu près au niveau du SMIC et la plupart des AESH sont à temps partiel.
Quand on entend cela, on se dit quand même qu'il y a un petit souci sur l'accompagnement des enfants. Est-ce que vous avez fait vos études ici? Est-ce que ça a été compliqué?
Alors, moi, j'ai fait mes études dans des institutions, dans des centres de rééducation. Mmh. Donc, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence et jeune adulte en internat. Mmh. Donc, je n'ai pas vécu...
Cette situation-là, pour autant, est-ce que c'est une bonne chose, justement, l'inclusion des élèves, qu'ils soient tous...
Je ne suis pas expert de la situation, mais j'ai toujours gardé une théorie pour moi qui était l'inclusion à sens unique, ça ne peut pas fonctionner. Mmh. On avait des bijoux en France, des centres de rééducation extraordinaires. Il y en a encore un qui fonctionne dans cette philosophie qui est Toulouse-Lautrec, où on a fait l'inverse. On a intégré des enfants ordinaires dans le milieu extraordinaire du handicap. Mmh. Et c'est une belle réussite. Et je pense qu'on aurait dû faire ça à un moment donné, de ne pas fermer toutes ces écoles spécialisées avec ce personnel qualifié, avec des handicaps très très lourds. Et je pense que oui, ceux qui ont les moyens et qui ont l'envie, les familles, les enfants, qui peuvent aller dans l'école publique, dans l'école privée, dans l'école classique, pourquoi pas. Mais je pense qu'il ne faut pas fermer ces écoles spécialisées et peut-être accueillir les enfants ordinaires dans ce milieu et faire de la mixité autrement. Parce que des fois, vous avez des handicaps tellement lourds, je ne sais même pas comment les profs ou comment les AESH, bravo monsieur, parce que je me dis comment vous pouvez accompagner autant d'enfants qui sont déjà en difficulté, qui ont besoin d'attention particulière. Donc voilà, moi je suis pour qu'on puisse avoir le choix entre les établissements spécialisés, mais qu'on puisse intégrer les enfants ordinaires dans ce monde.
Il y a un manque de volonté sur cette question de la part du gouvernement, Pierre Denisio.
Je pense que le sujet n'est pas pris à la hauteur des enjeux. On manque d'AESH, on manque d'heures d'AESH, on en manque encore plus dans les lycées parce qu'il y a besoin de qualifications autres. Il faut que les AESH puissent suivre le niveau aussi des élèves pour qu'ils puissent avoir de l'ambition scolaire et aller loin, au plus loin de leur potentiel. On reste, malgré tout ce qui est promis, élection présidentielle après élection présidentielle, à un manque d'AESH, des contrats qui restent quand même assez précaires, qui restent encore à temps partiel, même si on essaye de faire des équivalents de temps plein, on reste sur des contrats qui sont peu attractifs et donc forcément... on a ce vrai manque-là, plus que les difficultés matérielles qu'il peut avoir, qui existent. Comme le disait votre invité, la grosse difficulté, c'est l'accompagnement des élèves. Et ça commence dès le plus jeune âge.
L'accompagnement des élèves. En tout cas, j'en profite pour remercier Angelo Barthélémy pour ce témoignage donc, de la part donc, d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap. On va revenir aussi sur cette question des Jeux Olympiques et Paralympiques. paralympique. Donc il y a des navettes gratuites qui vont être mises en place. On parlait tout à l'heure des transports pour accéder au site olympique. Quid des déplacements du quotidien entre un ministre des Transports qui nous enjoignait à éviter les transports en commun, une présidente de la région qui exhorte désormais à descendre une station plus tôt pour éviter le monde. Ça laisse présager des conditions de déplacement un peu impossibles finalement pour les personnes qui sont en situation de handicap.
Non, pas du tout. Franchement, je partage.
C'est ceux qui ne vont pas.
Je ne partage pas votre pessimisme parce que on va être au mois de juillet et au mois d'août sur les jours d'épreuve, on va être à l'équivalent en affluence d'une journée d'hiver, journée ouverte. Donc, ce qui va être compliqué à gérer, c'est l'afflux de voyageurs au même moment. Mmh. Et c'est pourquoi Île-de-France Mobilité va augmenter l'offre de 15%. 15%, c'est une moyenne, puisque sur les transports desservant les sites olympiques et paralympiques, il y aura des cadences qui seront encore plus importantes. Donc après, c'est vrai qu'il peut y avoir des impacts sur les Franciliens qui se rendront à leur travail, ceux qui seront restés pour travailler. Il va y avoir des applications pour anticiper ces déplacements. Et effectivement, alors, je vous rassure, on reçoit les Jeux olympiques et paralympiques une fois par siècle en moyenne. Donc il va y avoir un impact pendant quelques semaines. Et oui, si on a la possibilité de télétravailler, il faudra télétravailler. Si on a la possibilité, si on n'a pas de problème de marche, de descendre peut-être une station avant, on sera guidé par une application pour être le moins impacté possible.
La question de l'accessibilité, Riyad Salem, c'est aussi la question de faire du sport en Île-de-France. Il y a de plus en plus de clubs en e-sport. Il y a aussi une prise de conscience là-dessus ou pas ?
Il y a de plus en plus de clubs traditionnels qui s'ouvrent et qui ouvrent des sections en e-sport et sport adapté. Et on a les fédérations aujourd'hui qui ont ouvert aussi, qui ont récupéré des sports, du parasport. Mm. Et donc évidemment, ça s'élargit. Et j'espère qu'avec les Jeux, ça va donner un coup de booster et que ça donnera à plein d'enfants qui... ou même d'autres, des jeunes adultes ou des adultes qui pensaient que le sport, ce n'était pas pour eux à cause de leur maladie ou de leur handicap, de venir s'essayer, de venir redécouvrir, peut-être refaire naître une passion qu'ils avaient avant ou qu'ils n'ont pas découvert encore.
Vous parliez tout à l'heure des Jeux paralympiques qui font un petit peu évoluer les mentalités. Pour autant, ce qu'on voit, c'est quand même que les gens se jettent moins sur les places pour les épreuves paralympiques.
Alors ça, c'est normal, parce que les gens font toujours l'amalgame avec les Jeux Olympiques et la billetterie des Jeux Olympiques. Quand les Jeux Olympiques ont ouvert la billetterie, tous les premiers prix ont été pris en quelques heures. Mmh. Donc, et nous, c'est pas forcément... En France, on aime bien faire les choses, je sais pas, un peu en retard. On se réveille et puis après, zut, les billets sont trop chers. Bah oui, et puis après, il y a bon, ces tirages au sort. Les billets des Paralympiques, c'est entre 10 euros et 100 euros. Au rugby... venez nous encourager. On a besoin de vous, le public.
J'avais pris basket.
Mais c'est pas cher, c'est 15 euros. Pour les matchs de poule, c'est 15 euros et la finale, c'est 25 euros. Donc, vous voyez, ça reste accessible. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de participer à la fête olympique, sachez qu'aujourd'hui, c'est aussi la fête paralympique. C'est les Jeux, au pluriel. Et venez quand même faire la fête avec nous sur les Paralympiques.
Bien sûr, mais au-delà des clubs, au-delà de la création de clubs handisport, il faut aussi que les porteurs de handicap aient la possibilité de s'y rendre. Il faut aussi faciliter le quotidien. Aujourd'hui, c'est suffisamment fait aujourd'hui.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le travail. C'est possible, mais c'est difficile. Aujourd'hui, on n'a pas une couverture nationale qui fait que dans chaque bourg, on a un club parasport. Mais les choses évoluent. Moi, c'est pour ça que je crois vraiment la situation. Si on prend la photo aujourd'hui, elle est pas belle. Mais avec les Jeux, je pense que on en reparle dans 5 ans, dans 10 ans. Et vous allez voir que cette prise de conscience, je crois vraiment.
C'est un point de départ,
Les Jeux. Pour moi, c'est le début de quelque chose. C'est la fin de l'ancienne époque où on voyait le handicap. Évidemment, il y a du handicap avec de la souffrance, avec tout ça. Mais on est tous quasiment passés par là. Mais à un moment donné, si on donne les moyens, on met les infrastructures, on ouvre la porte du bonheur, et là, je vous assure qu'on ne le lâche pas.
La région Île-de-France affirme soutenir la pratique du handisport et de l'inclusion par le sport. Ça passe par quoi, Pierre Denisio, très brièvement, parce qu'on est déjà arrivé au bout de cette émission.
Ah mince, alors très brièvement, c'est d'avoir des sites qui soient accessibles. Des gymnases accessibles, des piscines accessibles. Depuis 2015, Patrick Caram, qui est notre vice-président en charge des sports, a financé 2600 équipements, soit nouveaux, soit modernisés et mis aux normes d'accessibilité. Ça commence par ça, et puis le soutien aux fédérations handisport, aux fédérations de sport adaptés sur le handicap mental pour faciliter l'inclusion des franciliens handicapés dans le sport. Et puis moi je compte beaucoup sur ce que tu as dit, Riyad. Il va y avoir l'héritage matériel, c'est les sites accessibles, c'est les transports. Il va aussi y avoir l'héritage immatériel, c'est les personnes qui vont venir voir du handisport et qui vont voir les personnes handicapées d'une autre façon. C'est les personnes en situation de handicap qui vont dire bah, le sport c'est aussi fait pour moi. Je vous donne un exemple. On a proposé aux lycéens, puisque les lycées sont notre compétence, de participer, de venir assister à des épreuves paralympiques. On tablait sur une centaine de lycées volontaires. Mmh. En quelques jours, on a 230 lycées, et ça c'était les chiffres d'avant-hier. Mmh. 230 lycées qui ont envie d'envoyer des classes, voire du sport paralympique. Et ça c'est génial, parce que c'est les mentalités qui changent. Moi, ce n'est pas que le regard que je veux changer. Je veux que les jeux changent les mentalités. Demain, ça sera des collègues de boulot ou des DRH qui n'auront pas peur d'employer ou de travailler, qui auront beaucoup moins d'a priori avec des personnes qui sont différentes.
Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir participé donc à ce nouveau numéro d'Île-de-France Politique. C'était donc le sujet de l'accessibilité de l'Île-de-France avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent désormais dans moins de 3 mois pour les JO. Et puis, ce sera dans 4 mois maintenant pour les Jeux Paralympiques. Merci à tous et on va tout de suite regarder la météo.